Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Bientôt l'envoi d'un contingent angolais de soutien aux opérations de maintien de la paix en RDC. Information publiée sur la page officielle Facebook de la présidence de la République angolaise. Mission de ce contingent, sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 notamment. La ville de Kenge dans le Kwango, actuellement menacée par au moins 42 têtes d'érosion, elle s'écrée à chaque tombée des pluies et avance vers les infrastructures publiques. Situation consécutive à la morphologie de Kenge, constituée de plusieurs vallées, d'après le maire de la ville. Et puis, l'invité de ce matin, Mgr Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, y parle des incidents survenus à l'archevêché de Lubumbashi en février dernier, avec la présence des hommes armés. Il craint pour sa sécurité. Madame, Messieurs, bonjour. L'Angola a annoncé samedi l'envoi d'un contingent de soutien aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces armées angolaises en République démocratique du Congo, selon l'information diffusée sur la page officielle de la présidence de la République angolaise sur Facebook. L'objectif principal du contingent est de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 et de protéger les membres du mécanisme de vérification ad hoc. Plus de détails avec Alain Irung.
Le chef de l'État angolais João Lourenço préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et est également le médiateur de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la RDC. La note précise que l'Angola a pris l'initiative d'informer les dirigeants de la région dans le cadre de la coordination entre les processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que les Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Selon le document, en interne, le président de la République d'Angola et commandant chef des forces armées angolaises demandera l'autorisation à l'Assemblée nationale à cet effet. La note rappelle que la décision de la République d'Angola a été précédée des consultations avec les autorités de la République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, sur le terrain des affrontements au Nord Kivu, une psychose grandissante s'est observée dans la soirée d'hier samedi dans la cité de Sake, 27 km à l'ouest de Goma. C'est à la suite des bombardements enregistrés toute la journée dans cette zone où se poursuivent des violents combats. Des détails avec Noéla Luzitu Kabambi.
D'après des sources locales, plusieurs bombes sont tombées hier après-midi dans différents quartiers de Sake et Mubambiro, faisant des victimes et détruisant des maisons, affirment nos sources. Sont notamment concernés les quartiers Kaduki, Mosquée et Birere, où on parle probablement de 3 morts et de plusieurs blessés. Des affrontements rudes sont toujours concentrés sur la colline 3 antennes à Kihuli, localité de Murambi, où se seraient retranchés les rebelles. C'est à 3 km de Sake. Pendant ce temps, dans son communiqué rendu public ce samedi, le M23 invite le commandant de la force régionale de l'EAC, celui du mécanisme de vérification ad hoc, à venir prendre en charge les positions d'où ces rebelles voudraient se retirer, notamment Karuba, Muremure, Nyamitima, Kingo, Kagano, Kiuli et ses environs, indique ce communiqué du M23.
Nord Kivu toujours, les délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies ont rendu hommage samedi à Goma aux 257 casques bleus décédés dans l'exercice de leur mandat au sein de la MONUSCO. C'est depuis la création de cette mission en RDC et c'était dans une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires de la mission. Bernardin Nyangui, reportage.
Nous rendons hommage aux 257 casques bleus de la mission disparu depuis sa création.
C'est en ces mots que l'ambassadeur Pedro Comissario Afonso, représentant permanent du Mozambique au sein du Conseil de sécurité, a introduit cette cérémonie. Il a aussi exprimé sa reconnaissance envers tout le personnel de la mission onusienne en RDC.
Nous sommes profondément reconnaissants aux civils, policiers et militaires qui, sous la bannière des Nations Unies, œuvrent aujourd'hui pour asseoir la paix en République démocratique du Congo.
La chef de la MONUSCO a déploré pour sa part le fait que l'année 2022 eût été la plus meurtrière de la vie de cette mission après 2017. Madame Bintou Keïta.
J'ai le cœur très lourd pour la perte de nos vaillants casques bleus, ainsi que des victimes civiles congolaises. L'année 2022 a été la deuxième année la plus meurtrière dans l'histoire du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, avec 13 vies emportées dans des attaques violentes.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités et agents civils et militaires de la MONUSCO.
Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a inspecté hier à Bouchara un projet de fourniture d'eau potable aux déplacés de guerre installés dans le territoire de Nyiragongo. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 1 million de dollars, est exécuté par l'UNICEF et la société Virunga Energy. Il va durer 4 mois et doit acheminer l'eau potable du site de Bouchara à Nyiragongo au camp des déplacés de Bouchagara, situé à 5 km plus au nord. Pour lui, on ne peut pas laisser les 600 000 déplacés qui sont à Goma et autour de la ville sans assistance immédiate. À l'échelle de la province du Nord-Kivu, ils sont 2 300 000 à vivre en déplacement. Jean-Marc Châtaignier reconnaît cependant qu'à côté de l'assistance humanitaire, il faut des actions qui vont dans le sens de ramener la paix durable dans cette zone. L'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier dans ses propos recueillis sous la pluie par Rosalie Zawadi.
D'abord, il y a une chose qui est frappante. Goma, 600 000 déplacés. C'est une des villes au monde où il y a le plus de déplacés. Il y a une action de solidarité par rapport à cette population qui doit être faite dans l'immédiat. Après, il y a une action d'accompagnement au retour. Il y a une action politique pour ramener la paix. C'est deux choses qui doivent se mener en parallèle. Mais on ne peut pas laisser les populations déplacées du Kivu. 600 000 déplacés à Goma, 2 300 000 au nord Kivu. Une personne sur quatre est déplacée. On ne peut pas les laisser sans assistance. Il y a une assistance humanitaire immédiate. Et ce que je vais rajouter, c'est que cette installation, ce que nous faisons là, est non seulement pour les personnes déplacées, mais aussi pour la population de Goma. C'est-à-dire que nous permettons à des populations qui étaient situées en amont de cette centrale de bénéficier de l'accès à l'eau.
Dans l'actualité aussi, cette marche de soutien au FARDC samedi 11 mars à Kinshasa, cette manifestation pacifique organisée par les leaders de l'opposition dont Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi a connu la participation des dizaines de milliers de membres de leur parti politique. Paul Martin Domayamba était présent pour Radio Kapi.
Pour Martin Fayulu Madidi, cette marche a eu comme objectif de dire non à la présence de troupes rwandaises en RDC.
Nous marchons pour dénoncer l'agression dont fait l'objet de notre pays. Donc nous disons que le Rwanda et M. Kagame sont en train d'agresser notre pays et nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous disons aussi l'EAC, Eastern African Community, nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Il faut qu'ils partent, qu'ils quittent notre pays.
C'est aussi pour exprimer la solidarité et l'unité au FARDC et interpeller la communauté internationale, explique Matata Ponyo.
Ben, c'est un symbole de l'unité. C'est un symbole de l'unité parce que, comme vous le savez, le pays est agressé. Et tout le monde le sait, le M23, c'est un symbole du Rwanda. Et donc, cette marche constitue un soutien formel, mais aussi une interpellation à la communauté internationale qui ne peut pas laisser un pays agresser un autre.
Partis du rond-point Ngaba, les manifestants ont fait face aux militants de l'UDPS à la hauteur de la 12e rue avant de chuter sur la première rue à limiter après l'intervention de la police.
Direction la province du Kwango, je vous l'ai dit dans des titres. Des édifices officiels et maisons des particuliers basés dans la ville de Kenge, son chef-lieu, sont dangereusement menacés d'écroulement par des érosions occasionnées par les eaux des pluies. Le nouveau maire de la ville, qui affirme avoir dénombré plus de 40 têtes d'érosion dans chaque commune de la ville, pense que cela est dû à la morphologie de la dite entité qui est faite de plusieurs vallées. À en croire Noël Kouketuka, déjà plusieurs autres habitations ont été emportées, faisant des familles, des sans-abri. Il entend installer une brigade d'assainissement et prendre une mesure obligeant la population à bien gérer l'eau de ruissellement pour lutter contre ces ravins. Irène Boma.
À cause de son emplacement sur un terrain vallonné, la ville de Kenge est à ce jour menacée par au moins 42 têtes d'érosion qui se créent à chaque tombée de pluie et avancent vers les infrastructures publiques dont la tribune centrale de Kenge, la mairie, etc., ainsi que les maisons des particuliers. Selon les maires de la ville qui alertent, les derniers dégâts, c'est l'écroulement d'au moins 5 maisons emportées par des ravins aggravés par les eaux de pluie abattues la semaine dernière sur cette ville. S'agissant de sa politique de lutte anti-érosive, Noël Kouketuka promet de mettre en place une brigade d'assainissement et la mesure de prévision obligatoire de dispositifs de rétention d'eau dans chaque parcelle.
La politique consiste à éveiller d'abord la conscience de la population. Dans quelques jours, nous prendrons des mesures à ce que l'eau de ruissellement ne sorte pas d'une parcelle. Il faut faire des trous pour recueillir tout l'eau de pluie.
D'après l'autorité urbaine du chef-lieu de la province du Kwango, les quartiers les plus touchés par ces érosions sont entre autres Masikita, Yete, Sas et Forage. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Province du Congo central, le cadre de concertation de la société civile du territoire de Lukula craint que le programme de développement local de 145 territoires ne soit un raté dans cette partie de la RDC et ce, à cause des difficultés d'acheminement des matériaux de construction, situation due au mauvais état de plusieurs routes, selon Charles Kipingani, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Lukula. Plusieurs coins où sont prévues la construction des écoles sont inaccessibles et bon nombre de véhicules transportant des matériaux de construction rebrousse chemin. Charles Kipingani appelle les autorités à changer vite le fusil d'épaule en vue de réussir ce programme. On l'écoute au micro de Nana Plurich Mambo.
Le projet 145 territoires risque d'être un raté pour le territoire de Lukula, ou sinon il sera réalisé à moitié. Notez, dans le secteur de Tsangasidi par exemple, il a été prévu la construction d'une école moderne au chef du secteur. Les véhicules de l'Afritec, qui est le prestataire local, qui devait aller déposer le matériel, s'est limité en cours de route et il a fait demi-tour parce qu'il ne pouvait pas continuer à cause du mauvais état de la route. Nous, au nom du cadre de concertation de la société civile, nous avons déjà alerté bien avant que la priorité dans ces projets, dans ce programme, était la réhabilitation des routes de cette agricole. Avec les plots qui s'abattent ces derniers temps ici, vous pouvez imaginer que le véhicule puisse faire une vingtaine de kilomètres de route en terre bâtie. C'est inacceptable. Et donc, nous voulons qu'on puisse rectifier les tirs, c'est-à-dire si on va décaler le projet de construction des infrastructures, qu'on puisse quand même privilégier dans un premier temps la construction ou sinon la réhabilitation des routes de cette agricole.
Vous n'êtes pas en train de chercher à conquérir vos droits, mais vous êtes né avec vos droits. Il est question de les reconnaître et de les respecter. C'est le message du chef du bureau de la MONUSCO Ituri, Marc Karnasoro, samedi à Bunia, aux femmes travaillant dans les organisations humanitaires. C'était en marge des activités de la célébration du 8 mars, date dédiée aux droits des femmes. Ces dernières se disent déterminées à apporter leur contribution pour le retour de la paix en Ituri. Témoin de l'événement, Martial Kizabiamongo.
Des dizaines de femmes venues des organisations internationales et des Nations Unies ont rehaussé de leur présence à cette manifestation, à présence des officiels congolais. Parmi les hôtes de la cérémonie, le chef de bureau de la MONUSCO à Ituri, Marc Karnasoro, il a rappelé aux femmes de jouir de leurs droits que de lutter pour l'obtenir. Marc Karnasoro.
Vous avez ces droits. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte ces droits. Le secrétaire général des Nations Unies place le respect des droits des femmes, la lutte pour l'égalité des sexes au cœur de son mandat.
Message bien accueilli par les femmes. Sandra Mbaya, présidente des femmes humanitaires de l'Ituri, indique que son organisation organise des séances de sensibilisation des jeunes filles pour leur auto-prise en charge.
Le plus grand combat d'abord, c'est pour la jeunesse, l'effet psychologique, de pouvoir les inculquer les valeurs, de pouvoir leur montrer que les femmes sont fortes, il n'y a pas de différence entre elles et les hommes, elles peuvent faire tout ce que les hommes le font. Donc, et nous le faisons, on peut dire, par les formations pour encourager les femmes à se prendre en charge.
Cependant, elle reconnaît que plusieurs défis restent à relever pour une prise de conscience collective des femmes afin qu'elles jouissent de leurs droits. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Italie. En seulement 4 jours, 5000 migrants, dont plus de 1300 samedi 11 mars, ont été secourus au large des côtes calabraises et siciliennes par les gardes-côtes et la marine militaire, ce qui plonge à nouveau la petite île de Lampedusa dans une situation très difficile. Depuis le 1er janvier 2023, 17 592 personnes ont débarqué en Italie contre 5 976 sur la même période en 2022. Le centre de premier accueil et d'identification de Lampedusa déborde d'enfants, des femmes et d'hommes provenant de Libye, Tunisie et Turquie. Plus de 2600 migrants y sont hébergés, alors que ce centre a une capacité de 450 places seulement, rapporte une correspondante de France 24 à Rome.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Monseigneur Fulgence Muteba, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Dans cet entretien accordé à Radio Kapi, il parle des incidents survenus à l'archevêché de Lubumbashi le 24 février dernier avec la présence des hommes armés et s'est dit être en insécurité. Monseigneur Fulgence Muteba s'entretient avec Jean Gandou.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
D'une manière condensée, qu'est-ce qui s'est réellement produit ici à l'archevêché?
Intrusion criminelle des hommes armés qui se réclament de la garde républicaine sans aucun papier légal. Et puis, violation de mon domicile, de ma résidence officielle. Et puis, violation de la cathédrale. La cathédrale représente quand même quelque chose de très important pour moi.
Et vous vous sentez en insécurité?
Oui, justement, parce que j'ai constaté que depuis que c'est arrivé, eh bien, il n'y a aucun services étatiques qui sont venus ici pour s'enquérir exactement de quoi il a été question. Et c'est le silence total. Alors je me dis, bon, il faut que je présente la version des faits, une version authentique, et que je présente des inquiétudes pour que les pouvoirs publics puissent répondre. Donc qu'on puisse nous donner des explications sur ce qui s'est passé, parce que l'archevêché et la cathédrale ne sont pas des lieux où on peut venir faire des entraînements militaires ou bien des simulations. Et puis, ces lieux sont entouré d'une certaine inviolabilité juridique qui est reconnue à la fois par le Saint-Siège et par le gouvernement congolais. Alors, tout ce silence que j'ai constaté m'a poussé finalement à poser des questions et à adresser ce mémo à ces pouvoirs publics pour qu'on puisse diligenter une enquête parce que, bon, ça me plaît loin du titre, n'est-ce pas, de prince de l'Église. Je suis quand même un citoyen congolais. Alors, quand quelque chose arrive à un citoyen congolais, il est important que les institutions compétentes puissent prendre leurs responsabilités.
Juste après, il y a le responsable local de la garde républicaine qui avait donné un certain nombre d'éléments pour dire que personne n'en voulait à votre avis.
D'abord, c'était tellement plein d'incohérences son discours que pour nous, ça n'a aucune valeur. C'est quelqu'un qui a été poussé à parler et nous avons compris. C'est pourquoi on a dit on rétablit la vérité des faits.
Il n'y a pas longtemps que vous avez reçu le gouverneur de la province du Haut-Katanga ici. Après votre audience, il a dit que c'était juste un problème d'incompréhension. Vous confirmez cela?
Il l'a dit dans les médias et ça, ça n'engage que lui. Mais il y a des choses que nous sommes dites. Il ne fallait pas que ça soit escamoté. Bon, c'est son point de vue et il doit assumer ça.
Monseigneur Fulgence Muteba, dites-nous, vous vous reprochez de quoi pour que les gens viennent s'en prendre à vous?
Rien. Je n'ai jamais pris des risques d'aller au-delà de ma mission prophétique. Bon, ce que je fais, je suis encore prêt à recommencer. Et de la même manière.
Et donc, vous ne croyez pas en une simulation des entraînements militaires?
Nullement, mais oui, écoutez, là, on ne vient pas faire ce genre d'exercice, d'abord en pleine cité, et puis à l'archevêché, à la cathédrale. Non, ça, je ne crois pas un seul instant. C'est une espèce d'échappatoire, et personne de sensé ne peut croire à ce genre de racontard.
Monseigneur, vous dites qu'ils étaient lourdement armés et ils ont fait face au service de gardiennage qui n'était pas armé. Pensez-vous que vraiment, s'ils voulaient vous avoir, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'ils étaient armés et que ceux qui étaient en face d'eux ne l'étaient pas?
Non, mais que je sache, ce n'était pas encore une guerre déclarée. Le service de gardiennage a fait son travail et c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais ils étaient lourdement armés, c'est sûr, on les a vus. Ils ont cherché mon bureau, ce n'était pas pour venir me présenter des civilités ou pour chercher la bénédiction. Ça veut dire qu'il y avait effectivement une mission occulte. C'est pour cela qu'on demande des enquêtes. Et s'ils sont venus pour l'entraînement, qu'ils démontrent depuis quand est-ce qu'on peut faire des entraînements dans un archevêché qui est couvert par, n'est-ce pas, le principe d'inviolabilité en vertu de l'accord signé entre le Saint-Siège et la RDC. Et puis, depuis quand on peut venir faire un entraînement dans un milieu comme celui-ci, sans avertir, sans ordre de mission, qu'on nous dise les choses clairement.
Enfin, quel est votre moral?
Bien, mon moral est toujours bon, mais s'ils présentent des excuses, je vais leur présenter, mais je vais leur pardonner, et surtout que pendant nous sommes pendant le temps de carême, et je leur dirai, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa vie. Alors, il faut qu'ils se convertissent et qu'ils profitent de ce temps de carême pour se convertir. Par ailleurs, qu'on sache que nous sommes pendant une année électorale. Les réactions vont continuer. Et je pense que c'est contre-productif par rapport à ceux qui nous gouvernent. Ça, j'en suis convaincu.
Président Soumouteba, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur Argent.
L'archevêque métropolitain de Lubumbashi répondait aux questions de Jean Gandou Kabongo. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Rungmushinj, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de votre attention. Place à l'actualité sportive avec Enoch Matondo Mvuezolo.